Voilà, 20 minutes passées de quelques... 20 passées de quelques minutes à la pendule de la plus rebelle des radios. Comme tous les vendredis, 21h, il est l'heure de l'émission métal de Radio Canu avec Noise Pollution. Alors, vous allez me dire, cette semaine, bizarrement, je suis tout seul à parler. Bah oui, mon collègue Raph va arriver d'ici quelques minutes. Donc, on va débuter ce nouveau numéro de Noise Pollution dont il a le chiffre. Je crois que c'est 97 aujourd'hui, ou 98, on verra ce qu'il nous dira. Mais je crois qu'on est plutôt du côté de 97. 97e numéro donc pour cette émission. Et on va ouvrir justement la parenthèse métal de Radio Canu par le dernier album des Spiritual Beggars. Donc on a déjà passé pas mal de morceaux de ce nouveau disque qui s'appelle Earth Blues, qui est vraiment une petite merveille de classic rock, comme on dit maintenant, c'est-à-dire de hard rock très très 70s, fait par un groupe qui pourtant sort un disque en 2013 et qui existe depuis longtemps, hein. Ça a été fondé, je crois, au milieu des années 90, par notamment Michael Amott, hein, qui joue dans plein d'autres groupes, Carcass notamment. Donc voilà, c'est très très 70s et c'est vraiment vraiment très très bien. Je me demande si c'est pas d'ailleurs le meilleur album du groupe. Just need my freedom. Voilà la nouvelle version de Spiritual Beggars, donc groupe du nord de l'Europe. L'album s'appelle Earth Blues, alors nouvelle version parce que c'est le deuxième album avec Apollo Papatanasio au chant, qui a remplacé GB, hein, qui joue dans un autre groupe célèbre. On pensait y avoir pas mal perdu, hein, c'était un petit peu, pour certains, la déception sur l'album précédent. Et moi, je trouve que finalement, il s'en sort vraiment très très bien. Ce Apollo est capable d'adapter sa voix au style, puisqu'il chante dans des domaines de métal très très différents. Et là, il est vraiment très très bon dans ce domaine 70s. On a écouté le morceau qui s'appelle Freedom Song. Alors, on poursuit avec quelque chose d'assez improbable, un groupe qui s'appelle 6h33 peut-être. Donc c'est le projet essentiellement de Nico, qui est guitariste, clavier, qui compose tout, et qui, avec son groupe, invite au chant Arnaud Strobel, connu pour Carnival in College, si ma mémoire est bonne. Donc c'est le premier album de ce lien là entre 633 et Arnaud Strobel. Et ça fait suite à un mini-album qui était sorti, qui était disponible en téléchargement libre il y a quelques mois. L'album s'appelle The Stench from the Swelling et ça part un petit peu dans tous les sens. Au niveau de l'esprit, ça peut faire penser à des groupes comme Faith No More ou Devin Townsend, c'est-à-dire voilà, on prend plein de styles de musique et on y intègre plein de parts de métal dedans. Et ben voilà, moi c'est une grosse surprise. On n'attendait rien de ce mélange improbable et ça marche vraiment très très bien. Donc c'est le premier album. On écoute le morceau qui ouvre le disque qui s'appelle I Should Have Known Her Name Was Boogie. Effectivement, c'est un boogie. Voilà, et une coupure un peu bizarre du morceau, c'est pas lié du tout au morceau, c'est lié au CD qui saute. Allez comprendre pourquoi. Un vrai CD qui saute, même pas gravé. Hein, ça, c'est la technique de Radio Canu. Donc voilà, c'était 6.2.33 avec en invité Arnaud Strobel au chant. Excellent groupe, donc qui fait une sorte de fusion, qui part vraiment dans tous les sens. Et qui est vraiment très très bien. Alors on poursuit en espérant que la platine va arrêter de faire des siennes. Enfin là on a changé de platine, mais ça peut être pareil. Avec le nouvel album des Suicidal Tendencies. Donc que dire du groupe si ce n'est que grosso modo les quatre premiers albums sont des tueries, mais ça date tout ça de plus de 20 ans. Et ensuite c'est un peu bizarroïde la vie de Suicidal Tendencies. Globalement il restait que le chanteur Mike Muir et Mike Clark à la guitare. Et puis ils ont surtout vécu en sortant, en allant faire des concerts avec un succès énorme, hein, notamment dans certains pays comme la France, bizarrement, qui ont un très très gros succès. Et enregistré des albums pas terribles ces dernières années, pas beaucoup, hein, je crois deux. Et puis là sort le nouveau qui s'appelle 13, parce que ça faisait 13 ans que ça n'avait pas sorti de disque, du coup voilà, ils l'ont appelé 13. C'est très à la mode, hein, le mot 13 en métal, on se rappelle du Megadeth, enfin il y en a d'autres qui arrivent, des albums 13. Et alors que dire de ce disque, c'est qu'il ne faut surtout pas le comparer aux quatre premiers albums du groupe, parce que c'est difficile de tenir la route face à ça. Mais sinon, on a un bon petit disque typique Suicidal Tendencies, donc avec des influences un peu variées. Alors, on n'est pas dans la période trash, on a pas mal d'accélération un peu punkisante, hein, comme peut le faire Suicidal. Et puis des morceaux un peu plus groovy qui tendraient vers l'autre groupe de Mike Muir. Mais voilà, c'est plutôt sympathique, même si la meilleure période du groupe est derrière. On écoute Smash It, les Suicidal Tendencies. We'll be right back. Voilà donc, j'allais dire Infectious Groove. Non, le Suicidal Tendencies, c'est vrai que des fois on fait pas toujours la différence entre un album d'Infectious Groove et un album de Suicidal, et en concert c'est presque pire, hein, parce qu'on sait jamais finalement ce qu'ils vont jouer, et je pense que ça se mélange beaucoup trop. Mike Muir était bien arrivé dans les années 80-90 à faire la différence entre les deux groupes, et puis depuis une dizaine d'années c'est plus du tout le cas, ça se mélange et on sait pas bien où on est. En tout cas, officiellement, c'est bien un album des Suicidal Tendencies, album donc qui s'appelle 13, je vous le ferai pas en anglais, avec le morceau Smash It qu'on a écouté. Donc vous avez pu entendre des accélérations typiquement punk, hein, qu'on retrouve dans Suicidal avec des morceaux très très courts. Donc voilà, c'est loin des quatre petites merveilles qui nous avaient sorti au début de leur carrière, mais c'est plutôt une bonne cuvée par rapport aux deux derniers qui étaient quand même pas terrible terrible. Alors on va faire un tour en Australie, puisque l'Australie c'est l'autre pays du métal quand même. Il y a des groupes mythiques, notamment AC/DC. Mais là, on va s'intéresser à un jeune groupe qui sort un troisième album cette semaine, qui est sorti cette semaine, qui s'appelle El Pistolero. Le groupe, c'est Tracer. Donc Tracer nous avait sorti un album l'année dernière, il y a un peu plus d'un an, qui s'appelait In Between, qui nous avait déjà pas mal marqué. Et là, c'est le troisième album et le deuxième disponible en Europe. C'est toujours très stoner rock, hein, puisqu'il faut quand même le dire que c'est le truc du groupe. Et alors que Raph rentre en furie dans les studios, donc juste après vous re-entendrez Raph. Donc on s'écoute un petit morceau, Manic Foria du groupe Tracer. Voilà les excellents Australiens de Tracer avec ce nouvel album El Pistolero, donc qui est sorti je crois aujourd'hui officiellement. Donc on a écouté le morceau Manic Foria, voilà, bon groupe, très inspiré par Queen of the Stone Age, même si ça se sent beaucoup moins que sur l'album d'avant, ça reste bien dans cette veine-là de desert rock, on va dire, allez, pour pas dire stoner, hein. Allez, on l'a dit. Alors ça y est, le petit padawan est arrivé.
C'était tout transpirant. Bonsoir à tous. Vous remercierez nos amis cheminots.
Non, arrête d'accuser les cheminots.
Ah ben je sais pas, j'ai pris un véhicule qui s'appelle un train.
Ouais, et souvent les patrons sont plus responsables des problèmes d'organisation que
Je sais pas, j'avais tout bien organisé, mais non. Non, ils ont voulu vous priver de ma part de métal ce soir. Non, bon, j'espère que tout le monde va bien.
Le flux tendu, ça marche pas bien, ni en économie, ni en transport.
En transport en commun, oui. Voilà. Bon, allez, pour se poser, après on durcira un petit peu le ton, parce que je ne sais pas ce que vous a passé le grand timonier
des
depuis le début.
Sympa.
Il faut muscler un peu le jeu, c'est ça?
Ouais, tu fais comme tu veux.
Bon, d'accord. Allez, on retourne sur, le groupe allemand que j'ai découvert la semaine, enfin, il y a 15 jours. My Sleeping Karma, le groupe, le quatuor instrumental venu de Germany, avec un deuxième extrait de leur troisième album qui s'appelait Tree. Le morceau s'appelle Shiva, donc toujours dans cette ambiance stoner très 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 très, très alambiquée, très très onirique, vraiment excellent, un Karma to Burn avec un rythme un peu plus lent, vraiment impeccable pour l'introspection. Donc le morceau s'appelle Shiva. les Allemands de My Sleeping Karma avec un extrait de leur fabuleux troisième album qui s'appelle tout simplement Tree, non, c'est pas en anglais, T-R-I, Tree. Le morceau, c'était Shiva. À noter que, donc, il y a 10 morceaux et, en fait, il marche par paire. Il y a toujours un morceau un petit peu long, comme ça, un peu énergique. Il y a une deuxième plage qui suit tout de suite après, très, très atmosphérique, vraiment super bien, quoi. Groupe que j'ai découvert sur scène lors du fabuleux Stone Rising Festival qui s'était tenu au Klaxon il y a 15 jours. C'était fantastique.
Il est content. Alors, du coup, comme j'ai passé quelques morceaux au début, je vais te laisser passer un deuxième morceau de suite parce que le grand timonier fait beaucoup d'efforts. Très bien. Essayer de faire croire d'être démocrate.
Très gentil, oh là là. Voilà. Bah, on va enchaîner alors avec une nouveauté. Il s'agit du nouvel album de Stone Sour, le deuxième. Donc c'est un double album en fait qu'il voulait sortir. Notre ami Corey Taylor, chanteur de Slipknot et aussi de Stone Sour, House of Gold and Bones. Il avait sorti le Part 1, on en avait passé quelques extraits en fin d'année dernière. Et voilà arrivé le Part 2. Donc à la base, il devait faire un double album. La maison de disques a dit non, fais plutôt deux disques, ça en vendra en plus. On en vendra plus comme ça.
On gagnera plus d'argent.
Le Part 1 était absolument excellent dans une veine hard rock US super péchu, très très énergique, vraiment intéressant. Le deuxième, j'ai l'impression qu'il a mis un peu les chutes quoi. Hein.
C'est moins bien.
C'est vraiment moins bien. Pas aussi réussi que le premier. Le premier était, il y avait vraiment une belle idée là. C'est un peu tout mou, un peu tout bateau. Voilà, je vous laisse découvrir le premier single qui s'appelle Do Me a Favor. Fais-moi donc une faveur au grand timonier.
Oh oui, ça va venir tout de suite.
Voilà, un morceau un petit peu plus énergique, mais qui est pas vraiment représentatif de l'album. Voilà, Stone Sour avec son deuxième album, enfin la deuxième partie de son House of Gold and Bones, le single extrait de ce Part 2, hein, Do Me a Favor, avec Corey Taylor au chant, avec un chant un petit peu plus énergique, plus dans la veine de Slipknot, là on le reconnaît bien. Voilà.
Donc aujourd'hui c'est émission 96 ou 97 alors ?
97, tu as fait une erreur sur le blog au Grand Timonier, tu seras fouetté pour cela.
Oui, mais
jusqu'au sang.
Ouais.
Je sais que tu attends ça avec impatience.
Exactement. Alors du coup, 97e émission, je vous passe un groupe qui sort officiellement lundi, hein, son 19e album, il est disponible depuis aujourd'hui.
19e album.
Alors c'est pas tous les jours qu'on passe le 19e album d'un groupe.
C'est vrai.
Mais il faut dire que c'est un des trois groupes fondateurs du hard rock. Donc c'était facile aussi, puisque c'est le nouvel album de Deep Purple.
Il était attendu celui-ci, ça fait un petit moment. Hein,
8 ans. 8 ans, le dernier c'était un très bon album, il s'appelle Rapture of the Dead. Alors que celui d'avant était Bananas, et lui avait par contre défrayé la chronique, puisque c'était un album ultra FM, trop produit. Mais c'est encore le défaut de cet album.
Ah.
C'est-à-dire qu'on est à nouveau trop produit, moi je trouve que c'est dommage. Même si, au niveau esprit, c'est un petit peu plus intéressant que Bananas. Puisque les claviers sont mis en avant, mais il y a des solos, mais il y a même dans le premier morceau, un solo de clavier, on dirait presque une impro, donc ça veut dire qu'ils ont un peu joué sur ce côté-là, le traditionnel de Deep Purple dans les années 70, c'est ce qu'ils faisaient, ils rentraient en studio, ils improvisaient, ils sortaient du morceau. Donc voilà, alors bien évidemment, cette huitième mouture, hein, de Deep Purple, huitième formation, il n'y a plus les grands de grands, puisque Richie Blackmore est parti depuis une quinzaine d'années, John Lord est parti il y a quelques années, mais en plus est décédé.
En plus, il est vraiment parti, là.
Du coup, il est vraiment
définitivement
parti. Il était remplacé par Don Airey, qui s'en sort plutôt pas mal. Steve Morse à la guitare s'en sort toujours aussi bien. Alors il y a les fans et les ceux qui détestent Steve Morse. Moi je fais partie des fans. Bon, Ian Gillan sur disque, il est très très bon. Donc là il n'y a pas de souci. En concert
c'est une fois sur deux en concert.
Voilà. Et puis Ian Pace et Roger Glover toujours fidèles au poste. Donc voilà, on s'écoute Bodyline, extrait de cet album qui est quand même plutôt mou. C'est du Deep Purple vraiment plan plan. Et ce sont des papis et c'est peut-être une musique pour papy aussi, mais moi j'avoue j'aime bien, c'est plutôt quand même pas mal.
T'es pas un papy du métal toi quand même.
Pas encore. No What, c'est le nom de l'album. We'll be right back. Et oui, les papis de Deep Purple sont encore là. Le 19e album est donc disponible depuis aujourd'hui dans certains magasins, sinon lundi dans tous les autres. Know What, ça s'appelle. On peut noter quand même que pour ceux qui détestent Steve Morse, parce que c'est quelqu'un de un peu un shredder de la guitare, qui est un peu démonstratif, sur cet album, il est tout en retenue, ce qui est vraiment à signaler. Par contre, effectivement, il manque un ou deux morceaux ultra péchus, comme on pouvait entendre dans les années 70. C'est du Deep Purple moderne, donc avec ce son, avec ce très bien produit, trop bien produit. Voilà, c'est pour les fans. Moi, j'ai tous les disques, donc du coup, j'y suis là aussi, comme les autres.
C'est un aveu. C'est un aveu.
Oui, non, mais...
Je ne suis pas surpris. Bon, le groupe suivant, j'ai aussi tous les disques. Mais toi, je ne pense pas.
Alors, j'en ai aucun. Et en plus, par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'ils n'ont pas sorti 19 albums.
Non, tout à fait. Ils en ont sorti quand même pas mal. Donc, émission 97, et non, je ne sais pas combien tu as annoncé, mais c'est bien l'émission 97 aujourd'hui. Donc forcément, comme maintenant on le fait depuis quelques temps, on va s'intéresser à un album de l'année 1997. Un album de l'émission, de l'année de l'émission. Ouais, je vais y arriver, je suis très fatigué. Bon, bref. Donc comme d'habitude, là aussi, je ne vais pas vous présenter le morceau, c'est un album incontournable de cette année.
C'est sûr ?
Ah oui. Je t'assure, pas pour toi, mais pour pas mal de gens. Allez, c'est parti, on en parle après. ça swing. Vous aurez reconnu, bien sûr, le troisième album de Dimmu Borgir, qui en 1997 nous sort un monument du black metal symphonique. On est bien d'accord, Laurent.
Oui, même si j'aime pas Dimmu Borgir, c'est effectivement, je pense, un monument du black metal symphonique.
Clairement. Donc, l'album, c'est Enthroned Darkness Triumphant. Premier disque que les Norvégiens vont réaliser pour le fameux label Nuclear Blast. Donc c'est un énorme bond en avant, sachant que les deux premiers albums, ils chantaient en norvégien, c'était vraiment très roots, enfin très très dark, enfin
vraiment du
black metal, mais vraiment méchant et vil, quoi. Là, pour Enthroned Darkness Triumphant, un énorme bond en avant, ils se mettent à l'anglais, ils changent de logo avec un logo beaucoup plus lisible, et puis enfin des mélodies avec un clavier omniprésent, la voix absolument démoniaque de Chagrat, hein, le chanteur. Un disque absolument indispensable pour les fans de black metal, sachant que Dimmu Borgir va sortir 4 albums coup sur coup dans la même veine, quoi. Ouais. Ouais, tout à fait, des monuments. Donc 2 ans plus tard, en 99, il y a Spiritual Black Dimension. En 2001, Puritical Euphoric Misanthropia. Et le dernier, Death Cult Armageddon en 2003. Enfin, ces quatre albums de Dimmu Borgir sont absolument essentiels. Bien sûr, pour le black metal symphonique, forcément, je ne sais pas s'ils prendront, ils auront place dans la discothèque, pourtant non. Déjà bien fourni du grand maître Laurent. Voilà, c'était Dimmu Borgir pour l'année 1997.
Allez, on retourne en 2012, du coup, pas en 2013.
Ah,
oui, avec un disque sorti l'année dernière, de métal progressif du groupe Coïd and Cambria.
Comment tu dis Coïd?
Coïd and Cambria. Donc c'est la première partie. Alors, comme Stone Sour tout à l'heure, ouais. Ils ont voulu faire un double album et a priori c'était pas possible, donc ils ont sorti en 2 parties. Première partie Ascension, alors ça s'appelle The Afterman Ascension, et deuxième partie The Afterman Descension. C'est toute une histoire. Donc moi finalement, contrairement à beaucoup de critiques, je trouve que le Descension est moins intéressant. Je préfère donc le premier, donc je repasse un morceau de Ascension. On s'écoute Mother of Men. Alors par rapport aux autres albums de Coïd and Cambria, c'est quand même beaucoup plus pop qu'avant, moi je trouve, mais c'est toujours aussi bien. Vous allez voir Mother of Men, un peu de métal progressif popisante.
Breathe a song, live it with nothing to live with all. Oh, just complete a beat.
Voilà donc, je sais plus où j'en suis, Coïd and Cambria, extrait donc de l'album sorti, je crois c'est en décembre, alors que le dernier est sorti il y a presque un mois maintenant. Donc et la suite, donc là c'était The Afterman Ascension, et le deuxième partie ce sera la chute en fait, l'ascension puis la chute.
D'accord. Donc voilà. On va continuer avec une nouveauté, Alléluia, il était temps, et oui je suis aux anges, oui Alléluia, complètement, ah oui Alléluia, je m'emballe sur Radio Canut.
Il est venu avec sa croix clouée dans le dos,
ouais. C'est impressionnant. Exactement, les clouées à l'envers d'ailleurs, et oui, pourquoi, et bien tout simplement les Américains de Killswitch Engage nous sortent enfin leur sixième album.
Tu l'attendais depuis longtemps.
Ah oui, je l'attendais vraiment depuis très longtemps. Le dernier album, l'album éponyme, donc Killswitch Engage, est sorti en 2009, donc une éternité, ça fait 4 ans, quoi. Je n'en pouvais plus, quoi. C'est pas possible. Donc Killswitch Engage, bien sûr, c'est la référence du metalcore américain. Le nouvel album s'appelle Disarm the Descent. Bon, il faut savoir qu'il y a eu des petits soucis chez Killswitch Engage. Donc le chanteur précédent qui s'appelle Howard Jones, qui était notamment réputé pour sa voix claire, il a eu des petits problèmes de santé, de diabète, si j'ai bien compris. Donc il a été obligé de jeter l'éponge. Et ils ont eu la très très bonne idée de rappeler leur tout premier chanteur, qui avait joué sur les deux premiers albums, Jess Leach. Donc voilà, on retrouve un son un peu plus péchu, parce que bon, un peu moins pop. Excellent quoi, Killswitch Engage, c'est vraiment la référence du genre. Je vous propose le premier single issu de Disarm the Descent. Le morceau s'appelle In Due Time. Killswitch Engage. I'm sorry. Killswitch Engage avec son nouvel album, le sixième, Disarm the Descent, le morceau c'était In Due Time. Donc à noter quand même que Killswitch Engage est resté chez Roadrunner, un truc de fou.
C'est
hein.
Le dernier groupe.
Ah, c'est
bien.
Et Gojira aussi. Gojira. Ils sont deux. Oui, voilà, Roadrunner. Voilà. Donc là, Jesse Lynch, donc il a réintégré le groupe il y a peu de temps. Hein. Et ils étaient venus sur Lyon. Je sais pas si tu t'en souviens. Au Grand Timonier, ils étaient venus en juin l'année dernière, où ils nous avaient fait. Ils fêtaient les 10 ans de Alive and Just Breathing. C'était l'album de 2002 sur lequel Jesse Lynch jouait. Et ils nous avaient fait une superbe date au Ninkasi Kao. Ils avaient clôturé avec leur reprise de Holy Diver de notre ami Ronnie James Dio, et ça avait donné. Voilà.
Alors on va se quitter avec un dernier morceau qui va être le support sur Local Team, qu'on va faire un peu vite là parce que il y a les punks qui
ah oui oula oui ils vont me taper avec leur batte de baseball. Alors on fait vite. Donc un groupe de Mâcon, donc pas de jingle hein, un groupe de Mâcon, un groupe sur lequel je n'ai trouvé quasiment pas d'infos. Il se joue un petit peu Anonymous, je ne sais pas. Le groupe, c'est un groupe de black metal qui s'appelle Black Balrog. Donc on peut, je te suggère, ils sont sans doute fans de Tolkien, de son univers du Seigneur des Anneaux. Ils ont sorti un album qui s'appelle Black Metal Forces. Donc c'est du black metal mâconnais, très très inspiré par Immortal et Dark Funeral, des choses comme ça. Je vous propose le morceau pour clôturer l'émission, ça s'appelle Apocalypse, et je pense que c'est
l'apocalypse.
C'est l'apocalypse.
Rendez-vous la semaine prochaine.
Il y a émission 98, portez-vous bien, ciao.